On semble être aux arrêts en ce qui a trait aux précipitations dans le ciel de Québec. On a 4 degrés présentement. Pour ce soir et cette nuit, on descend à 1 degré. Encore un peu de pluie, entre 1 et 3 mm. Demain, plutôt nuageux, essentiellement au cours de l'après-midi, avec un maximum de 5 degrés. Il reste du vent, hein, des rafales à 45 km/h pour la journée de demain. Dimanche ensoleillé, 7 degrés, rafales de vent à 30 km/h. Et une moseuse de belle journée ensoleillée lundi, à part l'éclipse. Là. Soleil, 15 degrés, c'est ce qu'on prévoit pour les nombreux enfants qui ne seront pas dans les écoles du Québec en raison d'un discours ambigu, du très ambigu Bernard Drainville. Dans la circulation, Audrey.
Vous vous rappelez que sur Robert Bourassa Sud, à la hauteur de la rue Carreau, la voie de droite est partiellement entravée. Il y a un matelas qui traîne sur l'autoroute. Faites peut-être faire attention de ce côté-là. Ça peut être dangereux. Il y a des ralentissements aussi sur la capitale, direction est, à la hauteur de Robert Bourassa. L'entrée du pont Pierre-Laporte, direction sud, c'est encore problématique. Là, si vous êtes sur Henri IV Sud, la congestion commence à la hauteur de Quatre-Bourgeois. Ensuite de ça, le pont direction nord, dû à l'incident un peu plus tôt, il y a encore de la congestion. Puis la 20, direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniatal, c'est toujours au ralenti. S'il y a quoi que ce soit d'autre, ça se passe par le texto 88-971-102.
Audrey a parlé de circulation, Denis a parlé d'éclipse. Il y en a qui tournent un peu au ridicule les affichages de Transport Québec actuellement qui disent « éclipse solaire, planifiez vos déplacements ». Du côté des États-Unis, en fin de semaine, on en a vu beaucoup aussi. Ne sous-estimez pas le nombre de personnes qui, entre autres, vont prendre la 73 en direction sud lundi.
Penses-tu?
Sur l'heure du midi. Denis,
ah ouais.
Hier, souviens-toi que Max, dans ses sports, parlait d'une équipe de hockey dans le secteur de la Pennsylvanie qui a changé la date de son match parce que dans la ville de Erie, qui est une ville de 93 000 habitants, on s'attend à quoi? 250 000 personnes qui vont se déplacer là.
C'est fou.
Actuellement, là, il y a une portion de la population dont Denis et moi, on fait clairement partie. Audrey, peut-être moins. On est comme, bah, c'est une éclipse, mais la rareté de la chose, nous la sous-estimons. Puis, tu sais, Marceau, il veut faire de la route jusqu'à quasiment, je sais pas, mon lac mégantique.
Ah, mais lui, il se trouve bien qu'une excuse pour aller faire de la moto quand il fait soleil puis 15 degrés. Là, je veux dire, si ça n'avait pas été l'éclipse, ça aurait été autre chose. Mais sérieusement, il y a des sujets comme ça où t'es soit complètement indifférent ou soit entièrement passionné. Oui. Ça me fait penser à famille royale, là, quand il y a un enterrement ou un mariage. Oui. Là, t'sais, t'as le trois quarts du monde qui s'en sac comme l'an 40, puis là, les autres, ils veulent juste parler de ça, puis ils arrêtent de vivre.
Mais c'est l'engouement social, parce que mettons que je travaille pas ici, puis j'en entends pas beaucoup parler, je pense que je m'en sac.
De l'éclipse?
Oui, pour vrai, oui.
Puis sur le coup, quand t'avais arrivé, tu vas faire, hey, j'aurais donc bien dû. Il y a les secteurs où ça va être total, qu'on parle même de possibilité de voir les étoiles. Là. On dirait qu'on pense juste que ça va être un gigantesque nuage. Fait qu'il y a des gens qui sont clairement plus allumés par la chose, qui vont se déplacer dans des secteurs où elle sera totale.
Moi, j'ai des notions de base, mais je pense pas que personne soit allumé par l'éclipse, Véro. Je pense que c'est pas mal plus l'effet inverse.
Mais toi, t'es
qui arrive.
Par l'éclipse.
Non, mais je sais que t'aimes la science, là, mais tu sembles errer un petit peu là, de mon humble point de vue. On va vivre l'éclipse avec vous autres lundi, hein, by the way.
Oui, puis nous, on va être en studio, fait qu'on n'aura pas besoin de se déplacer. Mais si vous autres, vous tripez, ben vous nous ferez triper avec vous autres. Puis pour les autres, prenez quand même en considération qu'il y a des tripeux qui risquent de vous ralentir en général.
D'ailleurs, on a lancé la question sur l'Instagram de Boulevard. L'éclipse, c'est quoi pour vous autres? Est-ce que vous vous en sacrez comme l'an 40 ou c'est un incontournable puis vous voulez absolument vivre un moment ou un événement par rapport à ça? Un petit peu plus tard cet après-midi, on regardera les pourcentages. Ça m'intrigue. 15h39, Émilie Duchaloux-Grandmarché est avec nous autres. Salut, Émilie!
Salut à vous trois!
Comment ça va?
Ça va très, très bien.
Hey, aujourd'hui, on prend les questions du public et on continue de les prendre par texto 88-971-1021. Là, j'ai vu que tu es arrivé avec des produits que tu as toi-même censurés avec du duct tape.
Oui, 2/4.
Ah, ouais. Je trouve drôle.
Ouais, oui,
ouais,
ben,
vous vous sentez comment quand j'arrive avec ça, des bières duct tapées?
Je sens que je vais être testé et un des moments les plus agréables de ma semaine soudainement devient bien, bien stressant.
Ah non!
ça va être lié à des questions que vous nous avez transmises dans les derniers jours. Fait qu'on va essayer d'y aller en rafale, puis on va essayer d'en passer le plus grand nombre possible. Puis je vais essayer de t'en envoyer à la volée aussi parce qu'on a pris celle que vous nous avez envoyée. Mais continuez de le faire. 88-971-1021. Puis concernant la paire de billets des ex-ambassadeurs, je pense que ça a été attribué dans les derniers dernières minutes,
Audrey. Oui, salutations à Mathieu Brousseau-Guillemette qui vient de remporter sa paire.
Il y a combien de sortes de bières, Émilie? On va commencer tranquille.
Guessez donc, juste pour le fun.
Une vingtaine?
Quand on parle de sortes, est-ce qu'on parle de style ou est-ce qu'on parle de grandes familles, mettons?
On peut y aller avec les styles, peut-être. C'est combien de styles?
Je trouve qu'une vingtaine, t'es quand même pas pire.
Ouais.
J'en ai compté. J'ai amené ma bible de la bière après-midi ici. Fait qu'avant de rentrer, j'ai feuilleté.
T'as ça, une bible de bière?
Oui.
Honnêtement,
là, ceux et celles qui ont envie de parfaire leur connaissance de bière, mettez ça sur votre liste. C'est extraordinaire.
C'est quoi?
Ça couvre tout. Ça s'appelle « Les saveurs gastronomiques de la bière ». Donc, David Lévesque-Gendron, Martin Thibault qui ont fait ce livre-là. Il date déjà de quelques années. Il y a eu des rééditions.
J'aime le tien avec des post-it, des
feuilles.
Je reconnais mes livres de recettes dans
le livre. C'est vrai. Honnêtement, c'est une bible sans fin que vous vouliez parler de levure. Vous avez envie d'avoir des accords. Vous avez envie de connaître un peu l'histoire de la bière, connaître justement les styles. Juste dans ma belle bible ici, j'en ai compté 150.
Whoa! Oh boy, OK.
150, rapido, presto. Mais là, je vous parle de, OK, si on parle d'exemple des bières allemandes, de dire une Dunkelweizen, une Dunkel, une Bock, Weizenbock. Ça, c'est deux, trois styles différents.
Ouais, déjà.
Comprends?
Ouais.
Fait que, tu sais, là, je suis allée vraiment en détail, là, tu sais. Puis maintenant, il y a des styles hybrides.
Mm-hmm.
Fait que là, c'est en train de tout foutre le trouble dans tout ça. Mais c'est la beauté de la chose aussi au travers.
Il y en a énormément.
Énormément. Ouais. Mais si on parle de grandes familles, bien là, on peut regrouper ça en une quinzaine de grandes familles. Donc, okay. Exemple, des bières blondes et blanches fruitées, acidulées. Une rousse avec des notes caramel, exemple. Mettons, des bières stout, mais vraiment sur les notes de café.
Mm-hmm.
Fait que ça va être regroupé en une quinzaine de familles à peu près. Mais tu sais, des fois, on peut tomber dans des bières fumées qui peuvent être blondes autant que stout. Donc tout vient se mélanger encore une fois.
Ça me fait penser au style de musique. Tu sais, à une certaine époque, tu étais capable de dire t'as du blues, t'as du pop, t'as du rock, t'as du jazz, t'as du classique. Maintenant, t'as plein de sous-styles et t'as plein de styles qui se mélangent. Puis à un moment donné, il reste quoi? La musique que t'aimes, la musique que t'aimes moins.
Ah.
Les bières, moi, je suis rendu comme ça. Il y a les bières que j'aime, il y a les bières que j'aime moins.
T'as tout dit. C'est, le parallèle est tellement bon. Puis aussi, c'est de dire, des fois, on veut juste s'accrocher à un style. Moi, j'aime ça, des fois, des exemples, des bières, comme on parle souvent de Menot. J'en ai une, d'ailleurs, après-midi. Mais eux autres, ils écrivent une belle description sur le produit sans écrire le style.
La canette est blanche, puis ça va être écrit, mettons, salicorne dessus.
Hyper épuré.
Des détails, c'est hot, là.
Tu sais jamais ce que tu as dans ta canette comme style. Il y a des fois des gens qui y a une anxiété qui s'installe par rapport à ça. Merde, qu'est-ce que je vais boire, là? Un tap n'est pas trop loin pour dire, OK, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je bois. Mais au final... Amusez-vous là-dedans, là.
Ben oui.
Une bière, c'est un style, oui, mais je l'aime pas. Exactement comme la musique, ton parallèle est excellent.
Question intéressante, puis je connais pas la réponse, Émilie. Le produit le plus difficile à travailler dans la production d'une bière?
Je ne suis pas brasseuse. Donc, j'ai pas le détail de tout ça. Par contre, pour avoir jasé avec des brasseurs, des brasseuses très souvent, puis le temps nous a confirmé ça aussi avec le retour des styles classiques aujourd'hui, un défi particulier, c'est des bières traditionnelles. Donc, la numéro un que je vous ai apportée, qui est celle d'Emporium, la Bis. Salutations à mon ami Philippe Desbiens du Chaloux de Saint-Émile qui gère la micro là-bas parce que c'est une de ses bières coup de cœur de tous les temps, à peu près.
Ouais.
Là. Donc, on parle d'une Pilsner, double décoction, 4,8% de la gang d'Emporium.
On est au Québec présentement dans la mode des produits flyés, ultra goûteux. Puis, du côté des brasseurs, ils aiment ça se tester. J'ai vu un retour, justement, à des bières qui sont plus stiff, plus conservatrice, mais le but, c'est de la réussir drette, comme elle est supposée d'être drette.
Exactement, c'est ça. Exactement. Fait que là, t'as rien pour te cacher dans cette bière-là. Est-ce que ton utilisation... Là, on parle de décoction là-dedans. Juste pour le petit côté technique de ça, c'est qu'on va prendre... Quand on fait l'empâtage, donc on mélange la céréale pour faire sortir les sucres qui vont se développer ensuite un peu plus tard en le procédant en alcool... On va prendre une portion de cette pâte-là puis qu'on va faire, à un moment donné, bouillir un petit peu plus pour venir faire sortir des saveurs particulières. Puis on va faire cette étape-là deux fois. Donc, double décoction de ce côté-là.
Okay.
Donc là, c'est les Allemands, les Tchèques qui travaillent les produits de cette manière-là. On ne peut rien cacher. S'il y a des défauts dans cette bière-là, on va le savoir. C'est une bière blonde, presque translucide, à un petit côté voilé. Fait que c'est là que tu sépares les grands
des enfants.
Les grands des enfants, de dire, est-ce que j'ai bien exécuté le style? Puis les Allemands, les Tchèques sont tellement droites, ils sont tellement... ils ont la loi de la pureté de la bière, donc mm-hmm. avec des houblons nobles qu'ils utilisent, etc. Donc,
pas de place à l'improvisation.
Non, tu l'as ou tu l'as pas.
Il y a des gens qui aiment la bière, qui n'aiment pas le goût de la bière. Puis il y a des bières pour les gens qui n'aiment pas le goût de la bière.
Ça c'est de la bière pour les gens qui aiment la bière.
Absolument.
Ça goûte la bière.
C'est franc, 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 franc.
Mais ce qui est le fun dans ce type de bière-là, c'est que... c'est une bière blonde. Des gens vont dire « Ah, moi, les bières blondes, je ne traite pas là-dessus. » Non, non, c'est loin d'être plate comme bière blonde.
Il y a
là.
Comme une complexité qui vient avec.
Il y a une énorme complexité. La cérale est tellement bien représentée. Il va y avoir des notes un petit peu citronnées, des notes un peu florales. Il n'y a pas d'ajout là-dedans. Là. Tu n'as que quatre ingrédients de base. De l'eau, de la levure, du houblon, de la céréale. That's it.
Mais ça se boit vraiment bien.
C'est bon, hein? Ah, c'est oui. tellement bon. Puis... c'est pas mince en bouche. Il y a un beau corps dans cette bière-là. Elle est enveloppante. Une finale relativement sèche. T'as envie d'en prendre une deuxième gorgée, une troisième, quatrième. Donc, voilà. Fait que des produits difficiles à brasser, c'est des bières qui vont être traditionnelles sur le style. Puis tu veux aller te coller le plus possible sur ce style-là, idéalement.
Le produit de l'année à découvrir, je sais pas si on couvre 2023 et 2024, là, mais y a-tu vraiment quelque chose qui a retenu l'attention dans la dernière année puis qui vaut le détour?
C'est sûr que l'année 2024 est assez jeune, oui. On s'entend, mais j'ai senti quelques tendances l'année passée puis qui continuent à se révéler quand même en début d'année. Les bières sans alcool,
oui.
C'est plate, mais c'est ça.
Ben, c'est pas plate,
c'est
au
plate
contraire,
pour certains,
c'est ça.
Mais c'est ça quand même. Fait qu'on se raffine là-dedans. Donc, continuez à faire des essais si vous êtes un peu découragé. Continuez à aller là-dedans. Vous allez à un moment donné trouver votre track. Des bières classiques comme celle de numéro 1 que je vous ai servie. Il y a un retour aux sources là-dessus. De plus en plus, vous allez voir des brasseurs, des brasseuses retourner vers des bières d'inspiration belge, je pense aussi. Donc oui, il y a du funky, on est bon là-dedans, puis on est en train de se faire une belle carte de visite aussi sur tous les styles hybrides qu'on fait au Québec.
Ouais, ouais.
C'est extraordinaire, on a vraiment du talent, un talent exceptionnel. Mais il va y avoir un retour aux sources, moi c'est ce que je prédis. Donc okay. Des bières classiques, autant blondes que foncées, IPA, pourquoi pas des bières IPA plus anglaises, à traditionnelles aussi. Fait que je pense que ça va être une belle tendance. Troisième tendance que j'ai vue dans les derniers mois, dernières semaines, les houblons néo-zélandais, on la cote énormément. Nelson Sauvin, vous le voyez à outrance. Denis qui a trippé sur Nano Cinco.
Oui.
Nano Cinco met Nelson Sauvin dans presque tout ce qu'ils font actuellement.
Microbrasserie qui est du côté de Limoilou, qui fait d'excellents produits.
Absolument, ouais. Absolument. Donc, houblon Galaxy. Donc, même j'ai envie de mettre des houblons australiens là-dedans, mais tout ce qui est du houblon du Nouveau Monde en dehors des États-Unis, il y a vraiment une forte tendance là-dessus. Des fois, même, on parlait d'Emporium, ils ont brassé une lager traditionnelle, mais avec un houblon mosaïque. Fait qu'on va venir jouer sur des styles traditionnels, mais avec un houblon qui n'a pas d'affaire là habituellement. Fait que c'est ça aussi.
Bonne question qui vient de rentrer sur les textos. C'est Isabelle, on la salue. Elle parle aux filles de Gravel dans le retour qui sont allées dans le Maine il n'y a pas longtemps. Elle dit « J'adore à la gâche », qui est la microbrasserie de pointe.
D'ailleurs, quand on a fait du bar hopping pendant notre journée downtown Portland, il y avait de la gâche à toutes les places où on est allé.
Bien sûr.
Y a-tu quelque chose qui se rapproche des bières à la gâche de notre côté de la frontière?
Le timing, c'est là. Okay?
Ah ouais.
Ben, vas-y.
Ben, c'est parce qu'à la gâche, en partant, ont plusieurs produits de plusieurs saveurs.
Oui.
Mais je pense qu'ils travaillent beaucoup avec les levures belges de façon principale, ce qui donne un goût, au départ, particulier à la bière.
Tout à fait. Tu as tout dit là-dessus. Là, maintenant, c'est le temps de mettre la main dessus. Le castor a ressorti dans les dernières semaines sa tripelle reposée.
Hey, tu nous l'as fait goûter, ça.
Oui.
Oui.
L'inspiration de cette bière-là, c'est la curieux de Allagache. Si Isabelle connaît bien son Allagache, elle va connaître la curieux, j'en suis certaine.
Oh, oui.
On parle d'une triple belge vieille en barrique de Bourbon. Il va y avoir des petites distinctions par rapport à le temps de fermentation, le temps de dépôt, le temps où la bière a reposé dans le baril.
Mm-hmm.
Donc, celle d'Allagache de mémoire a reposé un peu plus longtemps que celle de Castor, mais elle s'appelle la tripelle reposée. Elle est disponible en canette maintenant.
Hey, allez vous chercher de ça. Donc, c'est de l'or en barre.
D'après moi, c'est le plus proche qu'elle peut se rapprocher d'Allagache. C'est clairement ce produit-là en ce moment.
Pourquoi les bières à saveur d'érable sont toujours élevées en taux d'alcool? Premièrement, est-ce que c'est vrai?
C'est complètement faux.
Bon!
Ah! Ben, je dis complètement. J'exagère un peu dans le sens où c'est vrai, on a le réflexe. Puis ça, c'est vraiment une question de
produits complémentaires. Hein? Quand on travaille des accords, on l'a fait quelques fois ensemble, on veut aller en complémentarité, fait que des accords faciles. On va aller chercher les mêmes notes de saveur avec quelque chose qui se complémente bien.
Oui.
Donc, l'érable, évidemment, fait qu'on va avoir tendance à le travailler avec des bières qui vont être plus sucrées, des bières qui vont être sur des notes scotch ale aussi, donc avec une céréale un peu caramel. Fait que là, c'est des amalgames qui sont très faciles à faire. Par contre, là, il y a un aliment, un ingrédient particulier qui vient brouiller les cartes là-dedans. Donc, c'est la bière que je vous ai apportée après-midi.
Ça sent bon, ça.
Ça sent bon. Mm. On est-tu d'accord que ça sent pas mal l'érable?
Ben oui, à côté. Là.
Au nez, j'ai l'impression, vous me direz si vous êtes à la même place.
Ça sent pas l'érable, ça sent la tire d'érable.
J'ai l'impression de rentrer dans la pièce où le sirop est en train de bouillir. L'eau d'érable est en train de bouillir, littéralement.
Oui, mais c'est léger.
C'est bon, hein?
C'est l'eau d'érable.
Et quand même foncé, cette bière-là, mais je vous annonce qu'il n'y a pas d'érable dans cette bière.
C'est drôlement léger.
Je sais quoi, tu nous as déjà fait goûter cette bière-là, hein?
C'est Menot.
Oui.
Ils ont sorti la bière érable. Elle est travaillée avec le champignon lactaire.
C'est incroyable.
Le champignon lactaire qui va dégager des notes franches d'érable. Donc, il y a zéro érable dans cette bière-là.
C'est toute une feinte.
Elle a l'air très incrédule. Voyons-tu une bière? C'est quoi ta bullshit après-midi?
Non, mais c'est que c'est vraiment... Quand je dis que c'est léger, c'est que c'est... Je vais pas comparer ça à de l'eau d'érable, mais je trouve que ça va chercher un peu le même...
Même dans la texture. Là.
Parce que tu mets le nez dedans, t'as l'impression d'avoir le nez d'une boîte de biscuits feuilles d'érable, là. Littéralement.
Et maintenant que vous le savez, regoutez, puis ça goûte encore l'érable malgré
c'est
tout.
C'est impressionnant, impressionnant.
Ouais.
Mais oui, c'est vrai, on a quand même tendance à associer les bières à l'érable sur des bières plus foncées, mais on a premièrement des bières travaillées avec le champignon lactaire, donc ce que vous avez là. Mais
combien
aussi...
de pourcentage d'alcool, cette bière-là?
Guessez donc, voir.
Je vais y aller pour un 4,
moi aussi,
un 4-5.
Moi, 5, j'aime ça.
6,2. Quand même.
Elle est traite sur tout, cette bière-là.
Elle est traite parce qu'elle n'est pas trop lourde en bouche puis il n'y a pas de sucre résiduel. C'est ça la différence. Quand on tombe dans les scotch ale, dans les porteurs, les stouts impériales vieillies avec les barriques, des fois même, on fait de la barrique. On va faire barriquer la bière dans un baril qui a accueilli de l'érable au préalable aussi. Ça devient intéressant quand même aussi. Donc, il n'y a pas juste des bières foncées, on va être sur des bières cuivrées, des bières ambrées aussi. Mais puis là, c'est le temps. Là. Ceux et celles qui veulent faire des essais, c'est maintenant. J'ai même vu des bières blondes avec l'érable. On a goûté ensemble un cidre avec l'érable aussi, qui était excellent. Fait que oui, il y a quand même un côté facile d'aller vers des bières foncées, des bières un peu plus lourdes avec l'érable. Oublions pas aussi que la manière de travailler dans l'érable dans les bières, c'est un très gros défi pour les brasseurs. Donc, c'est un sucre qui est très fermentissible. Donc, la levure veut venir manger tous ces sucres-là. Ça serait tellement facile de me faire une bière à 13 % 16 % Donc, ça demande quand même un gros défi pour les brasseurs aussi de travailler avec l'érable.
On va rester un peu dans la même catégorie. C'est une question qui nous est parvenue des auditeurs. Quelques propositions pour les amateurs de bières sucrées?
Oui.
Bières à l'érable.
Et voilà. Ceux qui veulent des bières qui sont plus sur les bières fruitées, les smoothies, c'est tellement approprié pour ça parce qu'on a vraiment de la purée de fruits dans le produit. Fait que c'est pas des sucres. C'est pas des sucres ajoutés, c'est vraiment tout le côté sucré de la purée de fruits qui va être là dans la bière, qui va s'exprimer. Belle grosse texture aussi, fait que là, on est quasiment sur quelque chose de décadent. Pas toujours très fort en alcool quand même, les smoothies, des fois, on va en trouver à 4-5%, donc ça reste quelque chose d'accessible, mais relativement sucré. Des fois, c'est d'y aller vers des bières plus fortes, des bières plus rondes. Dès qu'on monte le taux d'alcool, on monte le taux de sucre aussi. Allez-y vers des bières dessert aussi, donc des pastry stout qu'on appelle. Il va y avoir des ajouts de gâteaux, des ajouts de biscuits, des ajouts de sirop d'érable. J'ai même vu la brasserie Sir John qu'on adore travailler carrément avec du pudding chômeur. On envoie ça dans la cuve. Donc là, ceux les amateurs de bières sucrées comme notre ami Audrey, ben là, vous allez trouver votre compte, bien sûr.
Je tiens à dire qu'une de mes bières préférées dans cette catégorie-là, je pense qu'elle est disponible au moment où on se parle parce qu'elle ne l'est pas tout le temps, mais la Edleyville de la souche qui est faite avec leur sirop d'érable maintenant qui font du côté de Stoneham, je crois.
Oui.
C'est une bière qui est disponible présentement sur les tablettes. Le timing est bon. C'est une bière qui est forte en teneur d'alcool, mais c'est un Moses de beau et de bon dessert.
Effectivement.
Les IPA, la mode des IPA, évidemment, on a des questions dans cette catégorie-là.
Là, c'est plus une mode, là, on peut se dire que les IPA, c'est acquis.
Oui.
C'est bien installé.
Puis on est rendu avec une famille terriblement étendu là, de IPA. Mais c'est pas des produits nécessairement qui vont bien vieillir. Je pense, à moins que tu me dises le contraire, on a combien de temps pour boire une IPA pour qu'elle reste bonne à partir du moment où on l'a achetée?
Il faut faire la distinction dans le sens où la bière, c'est pas qu'elle ne sera plus bonne. C'est qu'elle sera pas à son plein potentiel aromatique comme à son premier jour.
On s'en poisonnera pas.
C'est mais non. Non, mais c'est quoi qu'on perd? C'est l'odeur, c'est le goût, c'est les deux?
Étonnamment, le houblon a beaucoup de points positifs dans la bière. Dans l'histoire de la bière, à un moment donné, on s'est aperçu que le houblon avait des pouvoirs très antiseptiques. Donc, il aidait énormément à la conservation de la bière. Mais de l'autre côté, ça peut paraître très paradoxe, un gros paradoxe, paradoxal, merci, mais le goût de houblon va disparaître très rapidement. Fait que tout ce qui est le fruité du houblon, l'amertume souvent va rester, mais le côté fruité floral du houblon va disparaître. C'est ce qui disparaît le plus rapidement.
Okay.
Donc, si c'est ce que vous aimez dans les IPA, New England IPA de ce monde, buvez-la la plus fraîche possible. Mm. Est-ce que vous allez vous empoisonner si vous en avez une qui traîne pendant un an dans votre frigo? Vraiment pas. Mais vous n'aurez pas le plein potentiel de ce que le houblon peut vous offrir là-dedans.
Je ne suis pas le palais le plus fin de l'univers. Puis bien franchement, je suis allé à Montréal, je suis allé me chercher des IPA du côté de Messorem oui. et du côté de Brouski. Puis j'en ai encore dans mon frigo. Puis là, je me sentais coupable. Hey, je les ai gardés pendant des mois. Sont plus bonnes. J'ouvre ça. Personnellement, je vois pas la différence. Ben, je ne suis pas encore rendu à un an, je suis peut-être rendu à 6 mois, mais je vois pas encore la différence.
Ben, il y a des distinctions là-dedans. Premièrement, ton produit a bien été conservé. Il a été conservé au froid
oui,
en tout temps.
Oui.
Ça aide beaucoup les IPA. Puis encore okay. là, comme on disait un peu plus tôt, on va séparer les hommes des enfants. Une brasserie qui travaille bien ses produits avec des produits de qualité, ça, c'est pareil. On le voit dans les restos, on le voit dans plein d'autres choses. Si tu travailles une matière première de qualité, il y a des grosses chances que tu améliores la qualité de ton produit avec le temps aussi.
Pour ceux qui vont à Montréal, Brouski, Messorem, on est des bonnes tales?
Oui, bien, pas mal. J'ai envie de les mettre dans le top 5 facile.
Je pense que je suis d'accord avec toi.
Fait que je vous ai apporté un petit test.
OK.
À l'aveugle. Okay. Pour les IPA, j'ai...
une vieille pin 9, non, c'est pas vrai.
Oui.
Hein? C'est ça le jeu.
Oh, c'est Dieu. Ça le jeu.
OK.
Je vous ai apporté deux IPA. Là, on n'est pas dans les New England. Audrey, je suis désolée, tu vas détester cette bière.
Mais je suis curieuse.
Je te le dis à l'avance, OK? Je les ai numérotées. On a deux fois la même bière. Je vais taire le nom de cette brasserie. J'ai fouillé dans des... je vais vous le dire bien franchement, j'ai fouillé dans nos boîtes où on a des retours de produits à faire.
OK.
OK? Parce que ces produits-là, dans le fond, j'ai pris deux fois la même bière. Dans l'exercice, ça ne servira à rien de nommer la brasserie. On n'est pas là pour ça. On veut faire des tests d'IPA. On oui. est sur une IPA vraiment West Coast. C'est une double IPA qui a du corps, qui a du tonus, qui a beaucoup d'amertume. Quand même, un beau 90 IBU. Je vous dis, ils sont deux dates différentes. C'est 100% le même produit. C'est un produit qui est brassé depuis longtemps. Je veux voir avec vous si vous allez voir la différence entre les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui déteint plus que d'autres? Est-ce que vous sentez... une vieillesse, entre guillemets, s'installer dans le produit.
Je plonge, puis je sais pas si c'est la forme des verres qui est pas nécessairement la même. Là, on a ça dans deux verres différents. Mais la numéro 4 a pas mal plus
de houblon
au nez que la bière numéro 3 okay. qu'on a.
J'aurais tendance à dire que la 4 est plus jeune que la 3 à ce moment-là.
Si je me fie à l'odeur, j'ai pas goûté encore ni une ni l'autre. Audrey?
Mais je suis tellement peut-être dans le champ, là, mais tu vois, moi, j'ai fait plus une grimace avec la 3 qu'avec la 4. Je sais pas pourquoi.
Toi, tu mesures le taux de grimace.
Mais l'amertume, si tu veux, en tant que
t'as commencé avec la
3,
fait que t'es peut-être plus habitué pour la 4.
C'est pas tant que ça. Mais ouais, j'ai trouvé la 4 plus facile à boire, entre guillemets.
OK. Puis en général, ce qu'on va voir dans les IPA aussi, des fois dans les vieilles IPA, j'ai envie de dire, c'est qu'il va y avoir un côté pas un peu rancis qui va s'installer. Là. Ça dépend du style d'IPA aussi, mais vous allez voir, tu sais, un côté, j'ai envie de dire, je sais pas si les gens vont comprendre, un côté un peu poussiéreux. Je sais
c'est
pas
laquelle
si
la
vous êtes capable. Pour l'instant, je ne l'ai pas dit.
Elle l'a pas dit encore. Il y a une différence de goût. Ça, je te le confirme. Oh, oui, absolument.
Parfait.
T'as-tu fait le test pour le fun?
Je l'ai fait.
OK.
Je l'ai fait.
Tu me confirmes-tu qu'à l'odeur et au goût, il y a une différence qui est marquante? Là?
Tout à fait, je suis d'accord. Hein? Okay. Je suis d'accord.
Mais on est à la même place.
Puis est-ce qu'on est d'accord que le produit n'est pas plus bon, en fait?
Ah, c'est juste très différent.
C'est hyper intéressant.
Il n'y en a pas une des deux que je dirais, arc, c'est dégueulasse. Là. Je la prendrais et je serais très heureuse.
En fait, je me serais probablement plus risqué à dire c'est juste deux produits différents. Là. C'est
ouais,
pas
à
la
ce
même.
Point-là, wow.
Ouais, exact.
Quand même.
Écoute, moi, j'aurais tendance... Je vais plonger, puis au pire, je serai humilié publiquement. Je pense que la 4 est plus fraîche que la 3. Ouais.
OK.
Même place que Denis.
Audrey, toi, tu dis l'inverse, je crois.
Ben j'aurais l'impression que c'est l'inverse.
OK. Je vous dis les dates, OK?
OK.
La numéro 3, elle a été produite le 28 novembre 2023.
C'est l'autre la plus vieille.
Et la numéro 4 Elle a été produite le 17 avril 2023. Donc, elle a presque un an de date, la numéro 4.
Tabarnouche.
Quand même. Fait que voyez-vous à quel point ça peut être trompeur?
Ben oui.
Puis je te le donne, Denis, peut-être que la forme du verre peut avoir une petite incidence sur la première
le
perception
moins de contact avec l'air,
oui. Au niveau du nez, en fait.
Puis vu que tu amènes le verre, je trouve ça intéressant parce qu'on l'a eu comme question. La forme du verre dans lequel tu dégustes ton produit, ça peut-tu avoir une incidence sur ton expérience de dégustation? Parce que tu vas d'une belle microbrasserie, là, il y a le présentoir des verres, ils sont tous beaux, mais ils sont tous de des formes différentes. Puis là, tu te dis, bon, j'achète-tu une pinte, j'achète-tu un petit verre de bière? C'est quoi que ça prend pour déguster de la bière? Il y en a qui aiment mieux prendre sa canette et ainsi de suite.
Ben oui.
Non.
Puis. Ça, c'est nos belles années, Véro. En fait, j'ai envie de vous dire, puis ça va toujours rester notre adage numéro un, là, honnêtement, chez Chaloux, toute la famille partagerait le commentaire, là. La bière, prenez-la à température que vous voulez, dans le conditionnement que vous voulez. Si vous voulez la boire à canette, là, c'est pas nous autres qui va venir vous juger pour ça. Par contre, si vous avez envie d'avoir une expérience sur les sens, parce que c'est ça aussi, déguster de la bière, c'est de mettre vos sens en éveil là-dessus. Pour moi, le meilleur verre, c'est le verre qui va être un petit peu en ballon. Donc là, on va pouvoir, si on a envie de faire réchauffer la bière, on peut la tenir dans le fond de notre main, puis après ça, faire rouler le produit dans le verre si on a envie aussi pour faire dégager les saveurs aussi. Puis au niveau olfactif, bien là, clairement, on va avoir la chance de prendre une belle puff.
On vient de le vivre, là. On vient de le vivre. La bière la plus vieille, qui normalement devrait avoir moins d'odeur, on l'avait dans un verre plus petit, plus rond, fait qu'on avait plus... on avait plus d'odeur.
Les saveurs étaient comme plus concentrées, alors que votre verre est un petit peu plus, disons, limite un peu en entonnoir légèrement, puis c'est comme si les saveurs avaient tendance à s'échapper du verre un peu.
Puisqu'on vient de parler de IPA et de dégustation, Stéphane nous pose la question, IPA du Nord-Est de Boréal, il y a un dépôt à toute fin. Est-ce qu'on boit le dépôt quand on vient de finir la bière? Est-ce qu'on brasse la canette un peu avant ou pas? C'est quoi le fonctionnement?
Je me souviens que Unibrew, je ne sais pas s'ils le font encore, mais Unibrew, sur les étiquettes, dans le temps, ils mettaient, il y a un dépôt dans le fond. Là.
C'est normal.
Ils l'avertissaient,
Bien, ça, c'est deux trucs différents. T'sais, dans les bières belges, il y a la lie parce que les bières souvent vont être non filtrées. Il y a quand même une filtration qui se fait en général sur les IPA. Par contre, il va y avoir un dépôt de protéines qui va se former.
Okay.
Ça, c'est vraiment un procédé chimique qui s'installe. Un procédé, tu sais, c'est on ne peut pas l'éviter. Donc, à différents degrés, ça peut être plus important ou un peu moins important dans les IPA. Ça vous appartient. Avez-vous envie de le boire? Ça amène-tu de la saveur pour vous autres? Clairement, il y a de la saveur là-dedans. Premièrement, le truc important, vous n'allez pas vous empoisonner si vous le buvez. Mon conseil, ce serait de garder peut-être un pouce et demi, deux pouces dans le fond de votre canette, brasser tout ça pour remettre les saveurs, parce qu'il y a quand même un bon concentré de saveurs là-dedans que vous allez perdre si vous n'avez pas ce dépôt-là. Si vous écœure, brassez pas votre canette, droppez-la dans le lavabo, puis ça finit là, tu sais. Mais si vous voulez l'expérience et avoir vraiment... Mais des fois, c'est trop concentré. Ça dépend des gens. Allez-y comme vous pensez.
On y va au goût et au plaisir.
Puis l'exemple de la Boréal Nord-Est, c'est parfait. Premièrement, c'est un produit qu'on trouve régulièrement. Faites le test. Amenez-en une. Puis une autre fois, faites le test avec le dépôt, pas de dépôt. Comment vous allez apprécier votre bière?
Hey, je veux terminer ça avec une question qui est jamais facile à répondre. Puis en même temps, on va te demander ta palette personnelle. Okay. Émilie, le top 3 de tes meilleures bières. Il y a un auditeur qui voulait savoir.
Ça, c'est tellement difficile.
C'est cruel.
C'est vraiment cruel. C'est comme choisir ton livre, ton film préféré,
ton
enfant préféré. Oh là là! Moi, j'aime les bières foncées, bières barriquées, idéalement. J'adore les bières blondes aussi. C'est des bières que j'apprécie énormément, mais tu sais, j'y vais avec la facilité de trouver le produit.
Oui, OK. Des bières qui sont facilement trouvables à l'année, mettons.
Oui.
Écartons les produits d'exception.
Ben oui.
Je
pourrais vous nommer une bière que j'ai bu quand je suis allée en Angleterre, que vous ne retrouverez jamais, mais c'est plate.
Allons-y avec, mettons, on va chez Chaloux en fin de semaine, puis celle-là, il y a des bonnes chances qu'on la trouve.
Trois Mousquetaires.
OK.
Trois Mousquetaires, ce qu'ils font est tout le temps superbe quand on tombe dans les bières bouteilles. Leurs barriques sont intéressantes. Pour moi, la top du top, ça a toujours été la Centrale Scotch Whisky.
Oh yes!
Qu'ils font une fois par année. J'adore la Déjeuner Impérial, j'adore leur Impérial Bourbon, etc. Mais Centrale Scotch, pour moi, ça demeure tout le temps une valeur sûre.
OK.
Là, une que j'adore, mais qui m'a déçue des fois avec, selon différentes batches, ils ont dû modifier un peu la recette. Boréal, double descente.
Oui.
Double New England IPA, un beau 8 % est disponible là en ce moment.
OK.
Je ne l'ai pas regoûté. Il y a des chances que j'y regoute, mais ça m'avait vraiment fait tomber dans les New England IPA particulièrement. Fait que j'ai toujours un attachement particulier pour cette bière-là.
Ben, si vous aimez la IPA du Nord-Est, mais que vous la voulez avec un petit peu plus de punch, je pense qu'on est dans ces régions-là pas mal.
Vraiment,
hein?
Oh, oui. Puis le punch d'agrumes est super présent, est vraiment superbe. Si je vais vers vraiment les attachements particuliers, Sam Adams, c'est niaiseux, hein? Mais la Boston Lager, pour moi, là, ça demeure une valeur sûre tout le temps. Je vais me promener aux États-Unis, il y a de la Sam Adams. Il y a des grosses chances que ce soit une pinte de ça que je me commande en fût. En fût, c'est superbe. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un attachement. Fait que c'est quelque chose de simple, bien fait. Mais je suis allée visiter la brasserie, il y en avait quelque chose de le fun.
T'as un attachement à cette bière-là.
J'ai un attachement particulier. Boston, c'est une ville que j'adore aussi. Fait que Sam Adams, ce serait ma bière plus commerciale, disons comme ça.
Émilie, merci d'avoir pris le temps et de faire des recherches et de fournir des réponses.
Merci.
On fait ça une fois de temps en temps, puis c'est toujours agréable. Puis merci pour le jeu, l'expérience. Ouais, ouais, ouais.
Avez-vous le temps, vous autres, vos best-of dans les bières? On a-tu le temps?
Et tabarnouche!
Je suis tellement infidèle, là. Moi, c'est saisonnier au bout de mes
affaires. Moi aussi, quand même, mais tu sais... Y a-t-il une bière vers laquelle vous avez tendance à retourner plus souvent que
c'est
d'autres?
Drôle, tu parlais des Trois Mousquetaires, puis c'est une bière qui est saisonnière que tu m'avais fait goûter. Est avec un mac de raisin.
Ah, cuvée Vidal.
Cuvée Vidal, voilà. Cuvées,
Vidal, Frontenac.
Moi, ça, elle, là, quand elle est là, quand elle sort, c'est plusieurs bouteilles qui s'en viennent à la maison. Pour être sûre d'en avoir quand on est hors saison, je te dirais que c'est probablement celle vers laquelle je me tourne le plus. Sinon, tu nous avais, c'est l'année passée que tu nous avais amené une gauze de Noctem au citron confit. Là, on est dans la période du crabe. Là. Ces deux-là sont faites pour vivre ensemble.
Ah, mais
ça. Fait que c'est un super, super mélange.
Même la sans-alcool est délicieuse.
Ouais.
Aussi.
Audrey?
Y en a quelques-unes qui me viennent en tête. Moi, j'avais trippé sur le 4-pack que tu avais amené des bières piquantes.
Ah,
là.
Ouais.
Ça nous arrive de les reprendre quand on mange des nachos. Ouais, ça, j'avais vraiment aimé ça. La Lollipop de Pit Caribou rentre à la maison de temps en temps aussi. Toutes les Smoothie Beach, je suis une grande fan.
Ah, ça
c'est
oui,
pas secret, là, honnêtement.
La souche,
ça rentre à peu près tout le temps. Puis la bière, je l'ai repris une couple de fois, la brunch. Là, celle qui est vraiment, on dirait que tu bois un mimosa à bière carrément.
Ketel Sour Vox Populi.
Oui, exactement.
C'est vrai que c'est bon, faible en alcool, une belle buvabilité,
non,
c'est
vraiment.
Vrai.
Moi, je vais y aller avec, mon Dieu, la criminelle de la Voie maltée qui a peut-être été mon premier gros kick sur les bières, qui est un petit peu plus forte en teneur d'alcool. Ça reste un classique. La souche, il y a la Edleville et la Misère noire que j'aime particulièrement.
Oh,
okay. La Misère noire, il n'y en a pas souvent, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, probablement que le stock à Beauport... À 70 %, c'est moi qui le ramasse.
Puis, c'était toi, ça.
Oui, c'est probablement moi, ça. Puis, j'ai... mon Dieu, ça devient difficile. Je trouve qu'il y a trop de IPA, de New England IPA, pour n'en prendre une qui se distingue des autres. J'en ai trop goûté de bonnes. Il y en a trop des bonnes. Fait que j'ai tendance à aller ailleurs. La bière au café de la brasserie des Mille-Îles.
Ah oui.
Dont j'oublie le nom.
Espresso au Kenya.
Oui, exact, exact. Ça, là, quand t'aimes le café puis que t'aimes la bière, là, c'est extraordinaire. Moi, c'est le genre de bière que je peux étirer un dimanche après-midi en regardant de la lutte, en regardant du hockey ou whatever. Là, ça fait partie des produits. Moi, c'est dès que j'en vois, ils sont là, OK, j'en ramasse.
Valeur sûre.
Ouais, c'est un réflexe instantané. Hey, merci beaucoup.
Merci à vous autres.
Ça a été super le fun. Merci à nos trois chaloux de la grande région de Québec où vous pouvez aller piger nos multiples suggestions. Le chaloux Beauport, le chaloux Saint-Émile et évidemment la gang d'Émilie du côté du Grand Marché. Tell me the words I've forgotten.